Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir.
Voici l'histoire d'une machination judiciaire. C'est l'histoire d'une cicatrice.
Au sommaire de cette émission de rentrée ce soir, nous allons essayer avec vous, ensemble, de rouvrir le dossier de l'affaire Dreyfus.
L'affaire Dreyfus. Une querelle française qui s'estompe dans les mémoires. Et pourtant, c'est une balafre autour de laquelle s'est redessinée la société française du XXe siècle.
Cette affaire Dreyfus qui fut une des crises les plus graves au plan politique et au plan moral qui ait jamais secoué notre pays.
Reprenons les faits. En octobre 1894, Alfred Dreyfus, jeune capitaine d'artillerie, citoyen français et juif alsacien, est accusé à tort par son état-major de haute trahison au profit de l'Allemagne, le pays ennemi.
Comment est-ce impossible ?
Capitaine, saisissez-vous de cet homme.
Condamné à la dégradation militaire.
Soldats ! On dégrade un innocent !
Puis à la déportation dans une enceinte fortifiée, Alfred Dreyfus est transféré en Guyane.
La colonie pénitentiaire de Cayenne ?
Non, mieux que ça.
Sur l'île du Diable. Humilié, reconnu coupable et privé des siens, le malheureux innocent doit d'abord affronter l'enfer du bagne avant d'entamer un combat homérique au nom de la vérité. C'est une erreur judiciaire bien connue de tous, mais il n'est jamais vain de s'y replonger.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'affaire Dreyfus durera 12 ans. C'est le prototype de l'erreur judiciaire. Et on y puise deux enseignements. Le premier, c'est qu'il est bien facile de se tromper. Et le second, c'est que lorsqu'on s'est trompé, il est bien difficile de revenir en arrière et de reconnaître son erreur.
L'affaire Dreyfus est un tournant majeur dans l'histoire politique française.
Demandez la libre parole, la dégradation du juif Dreyfus.
Car l'affrontement entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards
en garde
a engendré des clivages idéologiques qui ont perduré tout au long du XXe siècle.
Allez !
À savoir l'université contre l'armée, l'école contre l'église, la presse contre l'État, la raison contre les passions tristes ou encore la vérité contre le complot. Néanmoins, le capitaine Dreyfus, lui, je veux dire l'homme, a trop souvent été présenté comme un officier falot et accablé par son destin, apparaissant alors comme une victime taciturne.
Non !
Alfred Dreyfus.
Parlez plus fort !
Qui aurait souffert en silence, les fers aux pieds. Or, sa pugnacité, son patriotisme, sa foi républicaine et son courage en font un héros civique. Au point qu'Alfred Dreyfus fut sans aucun doute le premier des Dreyfusards. On doit donc réévaluer notre perception du personnage.
Alfred Dreyfus.
Persuadé que la vérité triompherait de la calomnie, le capitaine Dreyfus n'a jamais renoncé à se défendre avec force et bravoure contre la raison d'État.
Je le jure, je suis innocent.
Par ailleurs, à la fin du 19e siècle, la lutte pour la réhabilitation du capitaine Dreyfus a redessiné toute la société française.
Qu'est-ce que ça peut vous faire que ce juif reste à l'île du diable ?
Ce long combat judiciaire et politique a débouché sur une grave crise où se sont mêlés la haine de l'étranger, la culture de l'antisémitisme, le nationalisme et le militarisme. Enfin, 130 ans plus tard, l'affaire Dreyfus vit toujours dans l'esprit de celles et ceux pour qui la justice et la rectitude des faits demeurent des principes fondamentaux.
L'audience est ouverte. Faites entrer l'accusé.
130 ans plus tard, il faut se souvenir du calvaire enduré par l'innocent Alfred Dreyfus. À nouveau, faisons de l'histoire.
Personne ne connaissait Dreyfus.
Les uns étaient convaincus qu'il était coupable, les autres devinaient qu'il était innocent, mais aucun d'eux ne l'avait vu jamais.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Alfred Dreyfus, Le combat de la République. Premier épisode, un rêve français.
L'affaire Dreyfus.
Ça a été un coup de tonnerre.
Un drame dans la vie des Français.
J'accuse.
On allait les uns contre les autres se battre à coups de poing.
L'affaire Dreyfus, on s'y battait pour une idée au-dessus de l'homme.
J'accuse.
Il représentait la justice, la vérité, l'innocent condamné.
Je suis innocent.
On veut une partie de votre armée, on veut une partie de votre armée. L'homme de l'Union était divisé.
Erreur judiciaire, justice, liberté, vérité. Encore aujourd'hui, nous avons beaucoup à apprendre sur l'affaire Dreyfus et de l'affaire Dreyfus.
Mesdames, Messieurs, chers voyageurs, il est 9h59 et dans quelques instants, notre TGV d'Iria desservira la gare de Mulhouse. Prochaine gare d'arrêt, Mulhouse.
Le récit débute à la fin du mois d'août 2024, en gare de Mulhouse, dans le département du Haut-Rhin. Une fois descendu du train, Martine Abbat, notre reporter, arpente la ville à la recherche de la maison natale d'Alfred Dreyfus.
Vous avez le numéro ?
Alors, je sais que c'est le 25.
Ah ben voilà, on l'a trouvé.
On m'a dit à l'angle...
Je sais que la dernière fois que j'étais venu à Mulhouse, on a vu la
voilà.
Façade.
Ah ben regardez, c'est ça. Il y a même une plaque.
Ah ouais, ok.
Martine est accompagnée de l'historien Philippe Auriol.
Maison natale du capitaine Dreyfus, 1859-1935. Et c'est à l'angle, donc, rue du Sauvage, place des Victoires.
Ouais, et ça a dû bien changer depuis.
On va s'éloigner, comme ça on aura moins de bruit.
On va aller un peu à l'ombre aussi.
Aujourd'hui, l'immeuble est peint en rouge orangé, avec des encadrements blancs et des colonnades à chaque extrémité de la façade. Et en 1859, donc, les parents d'Alfred Dreyfus vivaient en plein centre-ville de Mulhouse. Une opportunité assez récente, en réalité, pour une famille juive.
Pendant très longtemps, en fait, les villes en Alsace, mais pas uniquement en Alsace, étaient interdites aux Juifs. Donc il y avait à Mulhouse, par exemple, pendant un moment, deux jours qui étaient autorisés, le mardi et le dimanche, où les Juifs qui habitaient dans les villes alentours, dont Rixheim, et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que la famille Dreyfus habitait à Rixheim et que le papa Raphaël est né à Rixheim, il venait faire son commerce, puisqu'il était commerçant, à Mulhouse sur les jours autorisés. Et à 20h, il y avait une corne, comme une corne de bélier, la corne résonnait et invitait les Juifs à quitter la ville, parce qu'ils n'avaient pas le droit. Et pour rentrer dans la ville d'ailleurs, ils devaient payer un tribut, et qui s'appelait, si ma mémoire est bonne, le droit de pied fourchu. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient assimilés à des animaux, puisque quand on entrait dans une ville fortifiée avec des animaux, il fallait payer. Et les Juifs étaient des animaux. Donc en fait, ils devaient payer pour entrer dans la ville.
Là, vous parlez de quelle époque ?
Bah, c'est quasiment du Moyen-Âge à quasiment la Révolution française, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été comme ça tout le temps, et c'était pas que ici.
Faites la queue avec vos marchandises et patientez comme tout le monde. Le bétail part ici, près des chevaux.
Les Juifs sont présents en Alsace depuis au moins l'an 1000. Un enracinement séculaire dans la région. Un enracinement que les adversaires du capitaine Dreyfus ont toujours dénié.
Les anti-Dreyfusards continuent à expliquer que les Dreyfus n'étaient pas français. En fait, les Dreyfus sont alsaciens, semble-t-il, depuis 1640. C'est quand même beaucoup, en fait.
Mal.
Et en 1640, donc, il y a un arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père qui, lui, venait de Trèves. Et c'est là d'où vient le nom de Dreyfus, d'ailleurs. Dreyfus, c'est Dreyfus, trois pieds, mais en fait, c'est Tréviri. Voilà.
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, soyez loués.
la famille Dreyfus est ancrée dans une histoire locale.
Quand on prend la famille Dreyfus, par exemple, du côté maternel, donc eux sont lorrains, donc on est vraiment dans un truc très local. Hein, du côté du papa, Raphaël, ce ne sont que des Alsaciens, essentiellement de Rixheim. Et du côté de la maman, on est de Lunéville, donc on est plutôt en Lorraine. Du côté de la maman, si ma mémoire est bonne, son père ou son grand-père, je ne sais plus trop, est boucher cachère, mais qui propose aussi une viande non cachère pour une clientèle chrétienne.
Elle-même, elle est couturière, la maman de Alfred Dreyfus.
Et du côté du papa, le père de Raphaël, Jacques, est circonciseur. Donc en fait, il y a une vraie implantation dans la communauté avec un vrai respect en fait des traditions culturelles et culturelles, etc. Mais qui vont aller s'évaporant de plus en plus.
Alfred Dreyfus vient au monde en 1859. Alors, à quoi ressemble la France à cette époque-là ?
Alors la France, c'est un pays de 37 millions d'habitants qui connaît une croissance démographique assez importante.
Arnaud Hout est historien.
C'est un pays qui connaît aussi une croissance économique. À ce moment-là, c'est un pays qui est un régime impérial.
Majesté.
Ce qu'on appelle le Second Empire.
Je vous prie de prendre part avec l'impératrice et moi à la contredanse que dirigera le duc de Saxe-Cobourg.
Sire, que donne-t-il ?
Mon cher duc.
Avec Napoléon III.
Aux ordres de votre majesté.
Qui a pris le pouvoir finalement une décennie avant, qui a solidement installé son pouvoir de manière très autoritaire. Et à ce moment-là, 1859, il commence à desserrer un petit peu les vis et on sent qu'on s'oriente vers ce qu'on va appeler ensuite l'Empire libéral. Donc on a une première évolution de ce point de vue. La France de 1859, c'est un pays qui est en pleine transition. On sent véritablement à ce moment-là une accélération des changements sociaux.
Et le père d'Alfred Dreyfus a su profiter des mutations sociales des années 1850.
La naissance de Dreyfus, c'est 1859. Donc, à cette époque...
Raphaël Dreyfus,
le papa d'Alfred.
Voilà. Il est commerçant.
Colporteur, je crois.
Au début, il est colporteur, qui est vraiment un métier... un des métiers qui était réservé, d'ailleurs, aux Juifs. Il y a d'ailleurs pas mal de petites phrases et de proverbes antisémites autour de ça. Des marchands de galons, etc., etc.
Donc il transporte des marchandises, il les
c'est
livre.
Ça, voilà. Et lui va connaître une ascension sociale absolument incroyable, puisque quand on regarde sur les documents officiels, il change de profession à chaque fois, et sa profession devient de plus en plus prestigieuse, entre guillemets. Donc à un moment, il est commerçant en tissu, après il est commerçant en gros, après il est propriétaire, parce qu'effectivement, c'est pratiquement un promoteur immobilier. C'est quelqu'un qui va bâtir une énorme fortune, en achetant et en revendant des immeubles, il en aura énormément. Et c'est ce qui va lui permettre de créer sa première usine...
D'impression
d'étoffes, et qui est une usine qui va formidablement bien marcher, qui va lui permettre aussi, effectivement, d'accroître encore un capital qui est déjà important. Et donc, Raphaël, de colporteur qui vend dans la rue, va devenir...
Industriel.
Et cette fortune qui s'accumule, justement, va leur permettre de déménager et là, d'avoir quasiment un hôtel particulier.
Avec un jardin.
Avec un jardin, qu'on etc., etc., voilà.
Achetez mon volage, mesdames. Du volage. Achetez mes mouchoirs.
Les ambitions d'ascension sociale de Raphaël Dreyfus sont aussi portées par un contexte socio-économique très particulier.
Le père d'Alfred Dreyfus investit justement dans le textile. Et on est justement en Alsace, au milieu du 19e siècle, dans un grand développement des filatures de coton. Il y a un développement industriel qui est très fort. En France, on considère que la révolution industrielle, elle se situe justement dans les années 1830-1840. Donc c'est précisément à ce moment-là, c'est le moment d'accélération des changements économiques. Et donc l'Alsace, c'est un des points les plus dynamiques finalement du territoire français. Et spécialement donc le textile à Mulhouse. Donc là, on est vraiment au centre de cette révolution industrielle dans un des territoires les plus dynamiques. Et le père de Dreyfus, justement, s'inscrit dans cette histoire et donc va réussir à faire prospérer son entreprise.
Cette réussite sociale, intimement liée à la révolution industrielle, offre à la famille Dreyfus, en 1860, une nouvelle maison situé en plein cœur de Mulhouse, sur le quai de la Cîne.
C'est un hôtel particulier, hein, avec un balcon au premier étage, un autre balcon au deuxième.
Trois chiens assis,
deux œils de bœuf, des encadrements de fenêtres ouvragés.
Ouais.
En pierre.
Et qui a l'air bien évidemment beaucoup plus grande que la précédente. Très belle maison.
Qu'est-ce qu'on peut dire de la place qu'occupe cette bourgeoisie juive dans la France de la fin du Second Empire, Arnaud Hout ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Juifs en France ont été très largement discriminés jusqu'à la Révolution française. À partir de la Révolution française, l'idée s'impose qu'il y a une émancipation des Juifs et que donc les Juifs ont les mêmes droits que n'importe quel autre individu en France. Il faut d'abord rappeler que c'est quelque chose qui est assez rare à l'époque en Europe. Il y a peu de pays européens dans lesquels les Juifs ont véritablement une liberté juridique à peu près entière. Il se trouve qu'au milieu du XIXe siècle, on commence aussi à avoir des élites juives qui sont représentées dans le domaine politique, dans le domaine intellectuel. Donc, être juif dans la France du Second Empire, c'est finalement quelque chose qui n'est plus un élément discriminant majeur dans cette société.
Alfred Dreyfus, dans 5 années de ma vie, 1901. Je suis né à Mulhouse, en Alsace, le 9 octobre 1859. Mon enfance s'écoula doucement sous l'influence bienfaisante de ma mère et de mes sœurs, d'un père profondément dévoué à ses enfants, sous la touchante protection de frères plus âgés.
Est-ce qu'il a une enfance choyée,
cet enfant ? Ouais, bien sûr. Ben c'est le petit dernier déjà, donc il a plein de frères et sœurs qui s'occupent de lui. Et il est un peu différent des autres. Et d'ailleurs, il n'ira pas dans la direction qu'on veut lui donner. C'est quelqu'un d'assez indépendant.
Et c'est un enfant qui a quel caractère ?
C'est un enfant, c'est le caractère qu'on va retrouver après, pendant toute sa vie, et qui fait qu'on ne l'a pas toujours compris d'ailleurs. C'est quelqu'un de complètement introverti, qui est mal à l'aise avec les étrangers, comme dit sa sœur, et qui n'est bien qu'avec sa famille.
Il est timide.
Il est super timide, il est modeste, il est pudique. Absolument introverti, un peu inhibé,
ouais.
Solitaire, oui, plutôt. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est l'étude. Dans la famille, on l'appelle Don Quichotte, parce qu'effectivement, il a tendance à se battre pour tout et parfois contre des moulins.
Témoignage d'Hélène Naville, Dreyfusarde, épouse de l'industriel genevois Eugène Naville, 1898. C'était un enfant blond, fin, délicat, chez lequel rien n'annonçait la volonté, l'énergie indomptable qui seront plus tard les traits distinctifs de son caractère.
J'ignore d'où vous vient cette nature indolente. Je vous exhorte à corriger ce penchant peu viril pour la rêverie et l'inaction.
Il obéissait volontiers, à la condition toutefois qu'on lui expliquât pourquoi certaines choses lui étaient ou imposées ou interdite. Retournons à Mulhouse avec Martine Abbat, pas très loin de l'ancien hôtel particulier de la famille Dreyfus.
Alors on est rue de la synagogue. Alors ça c'est le temple. Et juste en face, la synagogue. Voilà, l'entrée se fait par la rue des Rabbins. Donc c'est ici.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire ? Des rapports qu'entretenait cette famille Dreyfus avec la religion juive.
C'est une famille d'Israélites. Donc en fait, les Israélites, c'est qui ? Ce sont des Français d'une confession minoritaire et ça s'arrête là. On vit dans la communauté, elle existe. On se marie souvent dans la communauté parce que c'est compliqué sinon.
Je voici maintenant ma femme, selon la loi de Moïse et d'Israël.
Mais la plupart du temps, la cacheroute, c'est-à-dire toute la prescription alimentaire, qui est parfois un peu complexe, n'est pas respectée. On ne sépare pas le lait de la viande, on n'a pas des vaisselles différentes. Et il n'a jamais mangé cachère. Et d'ailleurs, quand on voit les menus, parce qu'on en a de la famille, on mange de tout, en fait. La plupart du temps, on ne va pas à la synagogue. Ou quand on va à la synagogue, en fait, c'est plutôt parce que c'est aussi le but de parler de la vie, de la famille et des affaires.
Peut-être pour les grandes fêtes annuelles,
voilà,
c'est ça ?
Et encore, peut-être même pas, quoi, voilà.
Est-ce qu'on fait le Shabbat ?
Non, certainement pas. Le rapport à la religion n'est pas là. Ce sont des Français. Et donc, est-il allé dans cette synagogue ? Oui, non, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a peu de chance.
Alors ici, on n'est pas très pratiquant, mais la pomme et le miel, c'est pour la douceur.
Oui, pour une année douce. Le miel.
Ce vendredi, on regroupe tout. On fait toutes les fêtes en un soir.
Et la pomme, je la mange en début de repas.
Oui.
Pour synthétiser cette première partie, donnons la parole à l'historien Vincent Duclerc, le biographe d'Alfred Dreyfus.
C'est une famille qui a conservé des signes de l'identité juive, mais en faisant le pari de l'intégration. De l'intégration qui procède aussi du choix de la langue française, alors même que la famille s'est développée plutôt dans la langue et la culture allemande. C'est intéressant effectivement de voir ce souci de Raphaël Dreyfus d'éduquer ses enfants dans la langue française, de leur donner des prénoms français, mais ça n'empêche pas effectivement Alfred Dreyfus de bien maîtriser la langue allemande, ce qui sera à la fois un atout pour lui, mais aussi retenu à charge contre lui.
À la fin des années 1860, donc, la famille Dreyfus est une famille alsacienne de confession juive qui mène une existence paisible et confortable. Mais comme tous les Français, leur vie bascule le 19 juillet 1870.
L'empereur a déclaré la guerre aux Prussiens.
On vient juste de l'apprendre. Il fait sonner le tocsin dans toutes les parois.
On nous dit qu'il ne savait pas.
Les gendarmes sont partis.
L'empereur Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. D'abord, quelles sont les raisons de ce conflit ?
En fait, la France cherche à dominer l'Europe continentale et elle fait face à un nouvel adversaire, la Prusse, qui de son côté se développe et veut justement unifier autour d'elle l'Allemagne.
Bismarck cherche à abaisser la France.
Mais non, il veut réunir les États allemands.
Pour ça, il lui faut la guerre.
Alors finalement, France, Allemagne, ils sont un peu de trop. Il y en a un de trop dans l'espace européen du milieu du 19e siècle. Ça fait déjà une bonne décennie que les deux rivaux se toisent. Mais Bismarck, le chancelier prussien, voit dans la guerre contre la France la meilleure opportunité finalement pour structurer autour de la Prusse la nouvelle Allemagne. Et puis il y a une autre raison qu'il ne faut peut-être pas négliger, c'est que la France, de son côté, fait un peu un complexe de supériorité.
Les Prussiens ne broncheront pas aux trois divisions et l'affaire sera réglée.
Ce complexe de supériorité, il se traduit par le sentiment que la guerre contre la Prusse sera une guerre facile à mener et qu'elle permettra de renforcer politiquement, diplomatiquement, militairement, la société française. Donc Napoléon III, mal conseillé de ce point de vue-là, pense qu'il n'y a que des points à gagner.
Mais Napoléon III va tout perdre. Une vraie débâcle.
Que se passe-t-il ?
Nous avons pris Sedan. Et votre empereur est prisonnier de sa majesté Wilhelm.
Il capitule à Sedan dès le 2 septembre 1870, entraînant la France dans une cuisante défaite.
Désolé.
Mais cette guerre franco-prussienne frappe l'esprit du jeune Mulhousien, Alfred Dreyfus.
Pierre Dreyfus, dans Souvenir du capitaine Alfred Dreyfus, 1936. La guerre de 1870, qui éclata alors qu'il n'avait pas 11 ans, devait décider de sa vocation. Sous ses fenêtres, il vit défiler les cuirassiers qui se rendaient vers leur glorieux destin de Reichshofen. Et cette vision resta constante dans son esprit. Puis, l'entrée des Allemands dans Mulhouse, qu'il fit pleurer de désespoir et d'humiliation, marqua son cerveau d'enfant d'une empreinte indélébile. Il se promit dès lors d'être officier français et de servir de toutes ses forces son grand pays meurtri.
Les soldats prussiens envahissent le territoire alsacien et deviennent très vite des troupes d'occupation.
Meine Freunde, zum Wohl. Der schöne Elsass gehört jetzt uns.
Depuis la fenêtre de sa chambre d'enfant, il est fort probable qu'Alfred Dreyfus ait ressenti l'humiliation.
Et il raconte qu'il entendait cette musique allemande qui passait dans la rue en bas de chez lui, donc dans la rue dans laquelle nous sommes. Et en fait, il mordait ses draps. Ça lui était insupportable. Et là est née cette conviction que lui allait se battre pour récupérer l'Alsace et la Lorraine. Voilà, et justement, après l'annexion, il s'est posé une question qui était qu'est-ce qu'on fait ? Et c'était une question qui était posée à tous les Lorrains et Alsaciens annexés.
Donc là, on est en 1871.
Voilà, 1871-1872.
Le traité donc de Francfort.
Voilà,
qui donne l'Alsace et la Lorraine.
Pour aller jusqu'au bout de l'humiliation.
Et là, les habitants de Mulhouse
ont un choix à faire. Et le choix, c'est soit de demeurer français et de s'en aller et de tout perdre, soit de rester sur place et de devenir allemand. Et en fait, nombreux sont ceux qui décideront de partir. Parce qu'il est insupportable de devenir allemand. Et quand on voit, par exemple, les industriels de l'époque ou les grands entrepreneurs de l'époque, presque tous ont gardé quelqu'un sur place quand même, dans la famille, qui lui est devenu allemand. C'est quelque chose qu'on reprochera à Dreyfus, c'est qu'un de ses frères, Jacques, prendra la nationalité allemande. Et il prendra la nationalité allemande, pourquoi ? Ben parce qu'en fait, il faut continuer aussi à faire fonctionner l'usine. Mais Raphaël, lui, choisit, pour lui et pour les enfants mineurs, de demeurer français, et donc de partir.
Tiens, le Temps publie dans sa rubrique « Le pays perdu » qu'en fait, ce sont plus de 350 000 Alsaciens qui ont opté pour la France. Les Allemands se gardent bien de le dire ici.
Le journal compte dans ce chiffre les 200 000 Alsaciens qui vivaient déjà en France et à l'étranger. Il n'y en a pas plus de 80 000 qui sont partis d'ici.
Évidemment, les Allemands font tout pour les en empêcher. Le double, moi, avait opté pour la France.
Alfred Dreyfus dans Souvenirs inédits, 1931. Le traité de Francfort arracha l'Alsace à la France. Il fallut pour les habitants choisir entre la France et l'Allemagne.
Vive la France, merde la Prusse.
Sans hésitation, mon père, qui possédait cependant des usines importantes à Mulhouse, opta, pour lui et ses enfants mineurs, pour la France. Mais il fallut quitter Mulhouse le 1er octobre 1872.
Allez.
Donc la décision de Raphaël Dreyfus d'opter pour la France amène ses enfants mineurs, dont Alfred, à rester français. Hein.
Vincent Duclerc, historien et biographe d'Alfred Dreyfus.
Et en particulier, c'était très important aussi, d'éviter donc que ces garçons ne soient contraints de faire leur service militaire dans l'armée allemande, où du reste régnait un très fort antisémitisme. Hein. L'antisémitisme prussien puis allemand est bien plus important que celui qui pouvait exister sous le Second Empire ou celui qui existera sous la Troisième République. Et seulement le fils aîné, Jacques, va rester à Mulhouse pour maintenir l'activité de l'usine, car Raphaël Dreyfus n'a pas les moyens de transférer l'usine à Belfort, comme beaucoup de capitaines d'industrie de Mulhouse vont le faire après l'annexion de l'Alsace.
En 1872, sans hésiter, Raphaël Dreyfus choisit la France pour ses enfants. C'est donc le choix d'un patriote. Ajoutons aussitôt que les anti-Dreyfusards ne cesseront de dire que le capitaine Dreyfus était un ennemi de la France. Alors, pour bien comprendre à quoi ressemble la nouvelle vie du jeune Alfred Dreyfus après 1872, écoutons le témoignage de son petit-fils, Jean-Louis Lévy, en 1973.
Jusqu'à 11 ans, c'est un enfant qui est choyé, qui est délicat, qui est protégé, qui est élevé par des femmes, qui est élevé par ses sœurs. Sa mère est malade et c'est sa sœur aînée qui joue le rôle de mère pour lui. Et brusquement, à 11 ans, tout casse.
Ça y est, c'est la guerre.
C'est la guerre de 70. Sa sœur aînée se marie. Et voilà cet enfant qui vivait dans un cocon qui se trouve soudain ballotté à Grenoble, à Carpentras, à Bâle où s'est réfugié son père, d'internat en internat.
Notre nouveau pensionnaire est bien chétif.
Et puis, il est envoyé donc à Paris, d'abord au collège Sainte-Barbe, où il est interne. Et là, il vit très mal, en fait, cet internat. Il est à souffre-douleur pour ses camarades.
Regarde-moi le Bosch. Je t'ai à l'œil.
Alfred Dreyfus est à la fois timide et déterminé, hein. Mais cette timidité l'empêche peut-être de développer des facultés de défense virile, hein. Il est très sensible, hein, et on le verra à travers ses écrits, à travers notamment les cahiers de l'île du diable, hein. Donc il n'a pas les ressources pour résister aux formes de bizutage, même s'il reste très déterminé dans cette volonté en fait, de s'élever par le savoir, hein, d'être à la hauteur aussi des ambitions que son père met en lui. Il est un excellent élève, hein. Et du reste, c'est aussi pour cette raison qu'il est victime de harcèlement, hein. Il faut employer les termes clairs, hein.
C'est gentil de vider nos pots de chambre, les gars.
Allez. Et je crois que c'est important pour le comprendre. Je crois que c'est au cours de ces années d'internat dans des lycées à Chaptal et à Sainte-Barbe qu'il va se tisser une espèce de coquille qu'on n'a jamais compris parce qu'on l'a pris pour une carapace. Et c'est une coquille fine. C'est une coquille qui lui est nécessaire pour grandir et s'épanouir. Et je crois que cette coquille qu'il a tissée va jouer un rôle assez important parce que après l'avoir protégée pendant son enfance et son adolescence, elle va, à l'âge adulte, devenir inutile et l'isoler du monde extérieur. Et c'est un homme qui aura, de ce fait, d'assez mauvais contacts sociaux, une certaine difficulté dans les rapports humains, et il est vulnérable à cause de la coquille dont je vous parlais il y a un instant, car il regarde le monde à travers cette coquille et il s'y meut un peu comme un insecte dépourvu d'antenne et qui ne sent pas ce qui se passe autour de lui. Voilà ce que j'avais à dire.
En fait, rapidement, la famille se rend compte que, effectivement, ça ne va pas. Il n'a pas la chance d'être au lycée Chaptal comme son frère, qui n'est pas interne. Finalement, bon, après différentes péripéties, il va au lycée Chaptal, mais il reste interne. Ça se passe, semble-t-il, mieux. Donc, il réussit son baccalauréat, qui lui ouvre les portes, effectivement, d'une belle carrière.
Alfred Dreyfus dans Souvenir, 1931. Après avoir obtenu mon baccalauréat, je retournais à l'école préparatoire Sainte-Barbe pour préparer les examens d'entrée à l'école polytechnique. Les souvenirs de la guerre de 1870 étaient restés si vifs dans mon esprit que je me décidais à embrasser la carrière militaire malgré la situation avantageuse que j'aurais pu avoir dans l'industrie familiale. Je pensais à l'Alsace frémissante sous le joug de l'étranger, à ceux dont le cœur était resté français et qui souffraient tant de l'oppression.
Après son baccalauréat, décroché en 1876, Alfred Dreyfus fait le choix d'entrer à l'école polytechnique, surnommée X, à la fois une formation d'élite, mais aussi un choix qui a du sens.
Messieurs, la République, la patrie, fait pour vous et vos semblables d'immenses sacrifices. Vous lui devez tous vos instants, tous vos efforts. Je serai sans pitié pour les traînards et les zigotos.
L'école polytechnique, c'est extrêmement intéressant pour Alfred Dreyfus et pour, au fond, les couches nouvelles qui, finalement, vont porter la République et assurer quand même son succès, sa démocratisation. Alors déjà, il faut se souvenir que son frère Mathieu s'engage donc en 1975 donc au 9e régiment de hussards de Belfort, hein, Belfort qui justement est face à la frontière allemande, hein, et on connaît, je veux dire, la résistance héroïque des troupes et des habitants de Belfort, hein, lors de la guerre franco-prussienne. Et en fait, cet engagement de Mathieu Dreyfus, hein, de son frère, va compter pour lui. Son frère avait envisagé de se présenter à l'école militaire de Saint-Cyr. Saint-Cyr, c'est une école militaire très cadrée, avec une tradition très forte, qui n'est pas à proprement parler très républicaine, hein, qui est d'abord réservée à une population noble ou très liée à la tradition militaire. Alfred Dreyfus sait qu'il n'a guère de chance d'intégrer l'école militaire de Saint-Cyr. En revanche, l'école polytechnique, qui ouvre aussi sur les carrières militaires, hein, et qui ouvre aussi sur les carrières savantes, hein, c'est-à-dire à la fois, notamment, le génie et l'artillerie.
Polytechnique est une école plus ouverte et plus républicaine que Saint-Cyr. Et donc, Alfred Dreyfus a plus de chances d'y entrer.
Donc, il revient au collège Sainte-Barbe, hein, qui est sur la montagne Sainte-Geneviève, à Paris, hein, là où s'élève le Panthéon, et il entre dans une formation qui lui permet vraiment d'exprimer ses grandes ressources, hein, et sa culture, son esprit mathématique, son sens de la précision. Donc, tout cela fait qu'il intègre l'école polytechnique.
Oui, messieurs, la France est un grand pays, un beau pays. Le sort vous a choisi pour être parmi l'élite de ses conducteurs. Jurez-vous d'en être digne, digne de la France, digne de l'X. Messieurs, voici votre drapeau.
Le choix de l'école polytechnique, c'est clairement le choix de servir la France jusqu'à mourir pour elle. Hein. Donc il faut insister quand même sur cette dimension-là, d'un patriotisme qui va jusqu'à pouvoir donner sa vie à la nation. C'est très important. Et c'est pas n'importe quelle nation. Hein. C'est la nation des Lumières, la nation de la Révolution française, la nation de la République. Hein. C'est, de ce point de vue-là, Dreyfus est républicain, c'est un démocrate. Et il estime qu'il a un rôle à jouer dans la réforme intellectuelle et morale de la France, hein, à l'issue de la défaite. Donc son choix de l'artillerie procède justement d'une volonté de contribuer à la modernisation de l'armée française, hein, une modernisation qui déplaît profondément à l'armée traditionnelle. Et en fait, Dreyfus, très vite, est suspecté non seulement parce qu'il est juif, non seulement parce qu'il est riche, relativement, mais aussi parce que c'est un officier moderne qui amène justement la promotion par l'intelligence, par la réussite intellectuelle, contrairement donc au code traditionnel du recrutement par la cooptation.
Le sous-lieutenant Dreyfus, élève diplômé de Polytechnique, entre donc dans la carrière militaire avec l'image d'un officier moderniste, ce qui déplaît d'emblée à la vieille garde des officiers traditionnels de l'armée française. Et donc, avant même d'être accusé de trahison, Alfred Dreyfus est suspecté d'idéalisme.
C'est un homme idéaliste, au meilleur sens du terme, et qui a un idéalisme qui, je crois, était teinté d'une certaine naïveté.
Jean-Louis Lévy, petit-fils d'Alfred Dreyfus, 1973.
J'ai lu avec le sourire, mais ça ne m'a pas étonné que ses frères et ses sœurs, quand il était enfant, le surnommaient Don Quichotte. D'autre part, plus tard, adolescent, il se fait de la France et il se fait de l'armée une conception presque mystique, religieuse. Et on a dit, et on a raison de dire, qu'il est entré dans l'armée comme on entre dans les ordres.
À l'aube des années 1890, Alfred Dreyfus est un jeune officier français, patriote, et promis à une brillante carrière militaire. Et alors qu'il vient d'être nommé capitaine, en septembre 1889, il se fiance avec mademoiselle Lucie Adamard durant l'hiver suivant.
Je vois au bonheur de nos futurs mariés.
Ma chérie.
D'abord, qui est-elle, cette Lucie Adamard?
Alors, Lucie Adamard appartient à une famille de diamantaires, de négociants en diamants. La famille Adamard est plus riche, incontestablement, que la famille Dreyfus. Donc l'alliance est une alliance qui va élever encore davantage le capitaine Dreyfus. Et c'est aussi une famille comme la famille Dreyfus, et peut-être même encore plus, hein, une famille très ouverte sur le monde. Hein, c'est-à-dire, c'est une famille juive, parisienne, très intégrée, vivant sur un train de vie très élevé. Hein. La famille possède, outre l'appartement parisien, donc une très jolie villa à Chatou, donc sur l'ouest parisien, où la bourgeoisie parisienne s'installe pour les longs week-ends. Hein.
Gabriel, on vous attend.
André, viens aussi.
Ne bougeons plus, s'il vous plaît. Merci beaucoup, c'était parfait.
Donc Alfred Dreyfus est relativement seul à Paris. Hein. Il n'a pas de famille à Paris. Hein. Et donc avec la famille Adamard, il adopte une famille. Et les liens d'Alfred avec ses beaux-parents sont très étroits avec aussi la sœur de Lucie. C'est intéressant parce qu'il retrouve ce milieu aimant qui a été le sien avec ses sœurs dans sa prime enfance. Et le mariage, donc, entre lui et Lucie Adamard est un mariage d'amour. Hein. Il est épris de Lucie, Lucie est très épris de lui. La solidité du couple est réelle. On le voit notamment à travers les lettres qu'il adresse donc en 1889 et 1890 à sa fiancée, hein, lorsqu'il est à Bourges, à l'école de pyrotechnie. Et les lettres qu'il écrit à Lucie sont des lettres très belles, très sensibles, pleines d'espoir pour le monde et l'avenir qui les attend.
Alfred Dreyfus dans 5 années de ma vie, 1901. Durant le courant de l'hiver 1890, je me fiançais à mademoiselle Lucie Adamard, qui est devenue ma compagne dévouée et héroïque.
Je vois au bonheur de nos futurs mariés.
Durant mes fiançailles, je préparais mes examens à l'école supérieure de guerre, où je fus reçu le 20 avril 1890.
Voilà un jeune homme qui porte fort bien l'épée.
Le lendemain, 21 avril, je me mariais.
Mon Dieu, ils ont bu plus de 100 bouteilles de champagne.
Danser, ça donne soif.
La veille de son mariage avec Lucie Adamard, le capitaine Dreyfus a été reçu à l'école supérieure de guerre, et ce n'est pas anodin.
Ben, c'est un nouveau succès scolaire, on peut dire, mais c'est aussi une nouvelle preuve de son patriotisme, puisque il est décidé à aller au plus haut dans la hiérarchie militaire, à commander des brigades, des divisions, hein, lorsqu'il sera nommé officier général. C'est une consécration hein, de sa réussite, c'est un concours très exigeant qu'il réussit, il travaille d'arrache-pied, et ce succès à l'école supérieure de guerre clôt aussi toute sa phase d'apprentissage et de concours. Hein. Et après donc sa sortie de l'école de guerre, eh bien, c'est vraiment toute une carrière militaire qui va s'ouvrir à lui.
Sa formation à l'école supérieure de guerre s'étend jusqu'au 1er novembre 1892.
Asseyez-vous.
Et comme on s'y attend, le capitaine Dreyfus est un élève étincelant et discipliné.
Arithmétique premier, 17,5. Géométrie plane.
Néanmoins, la fin de sa scolarité s'achève sur une note plus qu'amère.
Alfred Dreyfus, souvenir, 1931. Ma sortie de l'école fut marquée par un incident qui aurait pu me donner l'éveil sur les sentiments qui régnaient dans certains milieux. Mes notes me classaient troisième. Mais le général de Bonnefond,
mon général,
membre de la commission d'examen, qui m'avait cependant donné la note 19 sur 20 pour mon instruction technique,
pour un tir de 12 coups. Approvisionné, chargé.
Chargeur, prêt.
Tireur, prêt. Feu.
M'attribua la note 0 pour la cote d'amour, déclarant qu'il ne voulait pas de juifs dans l'état-major. Ce qui, du rang de 3e, me rejeta au rang de 9e.
Un 0 pointé en cote d'amour. De quoi parle-t-on ? Eh bien, à l'époque, on évalue l'aptitude générale d'un officier à servir. Autrement dit, la cote d'amour, ce n'est ni plus ni moins qu'une note sur la personnalité de l'élève.
La note qu'il obtient à cette cote d'amour est une note de 0 sur 20. Il s'en étonne beaucoup, d'autant que ça l'amène à reculer de manière importante dans le rang de sortie. Or, le rang de sortie est très important parce qu'il faut être dans les 12 premiers pour ensuite pouvoir faire un stage de 2 ans à l'état-major et donc compléter définitivement une formation qui ensuite donc propulse ses officiers vers les plus hautes carrières. Donc il se révolte, d'autant qu'il apprend que la raison de cette sanction est que le général interrogateur estime qu'il ne faut pas de juifs à l'état-major. Et donc, en mettant cette note de 0 sur 20, il pourrait empêcher Alfred Dreyfus d'entrer à l'état-major comme stagiaire. En réalité, cette note qui est maintenue ne l'empêche pas, puisqu'il était si bien classé, il était 3e, qu'il va régresser, mais il va régresser à la 9e place, ce qui lui permet quand même de conserver un accès à l'état-major. Et pour Dreyfus, c'est très intéressant aussi de voir qu'il proteste. Il proteste, et justement, on retrouve sa position donc face à l'antisémitisme. Il n'intègre pas l'antisémitisme comme l'obligeant à ne pas protester, à se tenir quoi, à attendre que la vague antisémite passe. Il proteste, il va voir le général commandant l'école de guerre qui ne modifiera pas la note, mais il a cette volonté, très intéressant, d'aller donc protester au nom du droit, et contre l'antisémitisme.
Ai-je fait quelque chose qui vous a offensé ?
Non.
Mais vous êtes le seul de mes professeurs à m'avoir mis une mauvaise note.
Peut-être que je ne partage pas la haute opinion que vous avez de vos compétences.
Ce n'est donc pas parce que je suis juif.
Je prends grand soin de ne jamais laisser mes sentiments personnels affecter mon jugement.
S'il vous faut en prendre grand soin, c'est que c'est une hypothèse envisageable.
Malgré ce 0 sur 20, qui en dit long sur l'atmosphère antisémite qui règne parmi les officiers supérieurs, Alfred Dreyfus parvient à décrocher un stage à l'état-major. Et sachez que l'état-major est alors divisé en 4 bureaux et que le stage consiste à passer un semestre dans chacun d'entre eux. Au départ, le capitaine Dreyfus est très apprécié par ses supérieurs.
Appréciation du stage d'Alfred Dreyfus à l'état-major. 1893, premier semestre. Officier très intelligent, rédige très bien, a déjà des connaissances fort étendues, est en mesure de traiter bien des questions avec ses idées personnelles. Veut et doit arriver. Le colonel chef du premier bureau de l'état-major de l'armée, signé de Germigny.
Mais au fil des mois, Alfred Dreyfus sent bien que son profil commence à poser problème.
Appréciation du stage d'Alfred Dreyfus à l'état-major. 1893, deuxième semestre. Officier incomplet, très intelligent et très bien doué, mais prétentieux et ne remplissant pas, au point de vue du caractère, de la conscience et de la manière de servir, les conditions nécessaires pour être employé à l'état-major de l'armée. Le colonel-chef du 4e bureau, signé Fabre.
Quand arrive l'année 1894, le capitaine Dreyfus achève son stage à l'état-major. Et malgré les entraves antisémites évidentes, se dessine devant lui une voie royale. Il peut prétendre à devenir général.
En général ?
Lui, le juif alsacien, dont le père portait à la fois une ambition sociale et un amour de la France, peut se hisser dans les plus hautes sphères de l'armée française. Une vie au service de la République et de ses valeurs. C'est l'accomplissement d'une intégration totale et c'est ce que Vincent Duclerc appelle un rêve français.
Alors, le rêve français, donc, renvoie à ce que la France offre en matière d'élévation pour des minorités. Cette ouverture donc des possibles est très importante, en particulier pour les minorités, minorités protestantes, minorités juives, qui donc peuvent devenir à la fois des personnes qui comptent socialement et aussi des personnes qui s'investissent dans le régime, dans sa démocratisation. Et quand on regarde le parcours du capitaine Dreyfus, on constate que il a réussi donc une très belle première partie de vie, hein, qui en fait aussi, c'est je pense tout à fait important pour la société, associe à la fois un service de l'État, hein, et en fait une vie familiale réussie.
Regardez comme il a dévoré ses yeux, ce capitaine.
Avec Lucie Dreyfus, ils s'aiment, on l'a dit, ils s'aiment profondément. Ils ont deux enfants, ils s'installent rue François 1er, puis avenue Trocadéro, ils voyagent. Donc ça veut dire que le service de l'État ne se fait pas au détriment de la vie familiale, ne se fait pas au détriment du sensible, de la culture. Et ce rêve français, c'est aussi la possibilité de tout concilier avec, effectivement, hein, il faut le rappeler, une aisance financière très importante, hein, à la fois grâce à la richesse relative de la famille Dreyfus, mais qui est quand même conséquente, hein, puisque Dreyfus donc complète très largement sa solde de capitaine, et aussi grâce donc aux richesses de la famille Adamar. Donc là, il y a des facilités financières, mais ces facilités financières vont en deuxième plan, je dirais, font de la manière dont on peut se projeter dans l'avenir. C'est très important, parce que les Juifs sont ancrés dans le poids de l'histoire, hein, du fait de la persécution. Et là, non seulement il y a une forme de libération de la persécution, mais il y a aussi une possibilité, au fond, d'aller vers l'avenir et non plus d'être tiré par le passé.
En conclusion de ce premier épisode, retenez qu'Alfred Dreyfus est un enfant alsacien, né dans une famille française de confession juive. Une famille patriote et fidèle aux valeurs de la République. Le jeune Alfred Dreyfus choisit de devenir officier au service de la France avec l'espoir chevillé au corps de récupérer l'Alsace et la Moselle.
À Reichshofen, nos officiers ne savaient pas lire les cartes d'état-major. La prochaine fois, vous saurez. Jeunes gens, déployez vos cartes.
Mais à l'automne 1894, l'état-major de l'armée française découvre l'existence d'un traître parmi eux. Et très vite, les officiers supérieurs désignent un coupable idéal.
Quel est le nom de ce capitaine ?
Alfred Dreyfus.
Dreyfus. Un juif.
Comment le rêve français du capitaine Dreyfus s'est transformé en cauchemar judiciaire qui le conduira jusqu'au bagne, c'est l'horizon du prochain épisode. Alfred Dreyfus, le combat de la République. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Éric Ruff et Clotilde Debézère, sociétaire de la Comédie Française. Assistance éditoriale, Irène Menahem, assistée de Fanny Petit. Documentation sonore, Frédéric Martin. Reportage, Martine Abbat. Mixage, Basile Bocquer, Baptiste Collion. Prochain épisode, ce maudit bordereau. Alfred Dreyfus, Le combat de la République, est un podcast original de France Inter.